14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors au fil du temps, depuis quand même un certain nombre d'années que je fais cette émission, eh bien il y a une chose que j'ai comprise, mieux vaut avoir des parents aimants et sécurisants pour se sentir bien dans sa vie. Et malheureusement, le nombre d'enfants qui n'ont pas eu cette chance est vraiment important et c'est pas sûr que les chiffres soient vraiment à la baisse ces dernières années. Bruno Poncenard est avec nous durant ces deux heures et nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a tant de violences intrafamiliales dans les familles. C'est des violences en tout genre d'ailleurs, hein, parce que bien sûr il y a des maltraitances physiques, mais il y a également des violences tout aussi désastreuses. Certaines même sont assez pernicieuses, comme l'humiliation, la trahison, et puis ces fameux secrets de famille qui sont lourds à porter pour toute la famille. Et puis bien sûr, il y a tous ces abus sexuels, ces incestes et autres violences sexuelles. Durant ces deux heures, je vous invite à venir témoigner et puis nous pourrons aussi essayer d'avancer ensemble parce que je crois que ça nous concerne tous. Comment nous pouvons repérer un enfant ou même un adulte qui est en danger? Quelle est la meilleure manière de protéger tous ceux qui sont en danger? Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre au 0826 300 300, que ce soit pour poser des questions à Bruno Poncenard ou pour témoigner bien sûr si vous avez vous-même vécu des drames familiaux. Bruno Poncenard, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors vous êtes psychanalyste, sexologue, clinicien, vous travaillez beaucoup sur la maltraitance et sur la violence intrafamiliale, c'est d'ailleurs vous qui avez eu envie d'aborder ce sujet. Je sais que vous avez assisté à un colloque récemment, puisqu'on en avait parlé. Oui.
Il y avait des assises de l'AFVF, l'Association des familles victimes de féminicides, qui a été un moment assez poignant, où il y a eu à la fois des témoignages et aussi toute une réflexion. Il y avait des magistrats, des policiers, des travailleurs sociaux, des associations, des professionnels d'écoute, psychologues, éducateurs spécialisés. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on a posé les bases d'une réflexion sur comment on pourrait maintenant faire peut-être avancer les choses, parce que les choses bougent, mais très très lentement. Il y a beaucoup de décisions qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'on manque de moyens et qu'on est à travers... Il y a un petit peu des trous dans la raquette par moment. Il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Et voilà, il faut qu'il encore y mette les moyens. Donc on ne lâche rien et on essaie d'avancer pour aider. Là, pour le coup, c'était les féminicides, mais de façon plus générale, on parle bien de violences intrafamiliales.
Hein ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que ça diminue, ces violences intrafamiliales, ou est-ce qu'au fond, ça stagne, malheureusement?
Je dirais qu'on a libéré la parole et qu'on en a de plus en plus connaissance et qu'aujourd'hui, on est en capacité non seulement d'informer, mais aussi de pouvoir souligner par moment les ratés, les loupés qu'il peut y avoir. Je prends l'exemple des féminicides. On sait par exemple aujourd'hui que 40% de ces femmes qui ont été tués, parce que c'est bien de ça qu'on parle, 40% sont des femmes qui ont déjà porté plainte. Et bien souvent, c'est des dossiers qui sont classés sans suite.
D'accord.
Donc on peut se poser la question de, est-ce qu'on est bien à l'écoute de cette problématique-là?
Oui, en tout cas, si elles avaient porté plainte, c'est qu'elles avaient quand même conscience d'être en danger. Et malheureusement, on n'a pas pu les sauver. J'ai quand même l'impression, Bruno Poncenard, que les gens ne sont pas finalement si à même de comprendre et de connaître la violence intrafamiliale. J'ai l'impression que ça reste quelque chose qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on va en parler pendant ces deux heures pour les informer, ça reste quelque chose qui existe que dans certains milieux, peut-être assez isolé. Qu'est-ce que vous en dites?
Ce que j'en dis, c'est que la grande difficulté là-dedans, c'est que la famille, c'est un huis clos, en fait. On n'a pas accès à la famille. Donc, vous parliez dans votre introduction, à juste titre, de secrets de famille. Déjà, dans les familles, il y a des secrets. Et quand les secrets sont un petit peu divulgués, morceau par morceau, ça doit rester dans la famille, donc on n'a pas accès à ça. Donc si on n'est pas dans une écoute de signes ou de lancement de SOS, si vous voulez, d'appel de détresse, qu'on ne décode pas et qu'on ne va pas chercher un peu plus loin, c'est difficilement accessible à la famille. Parce qu'il y a une pudeur, oui. Il y a des non-dits, il y a ce besoin de protéger cette entité, parce qu'on se sent lié, on se sent obligé un peu dans la famille aussi. Il y a de l'amour, effectivement, il y a du partage, mais il y a aussi des obligations. Et on a toujours peur de révéler un poteau rose qui pourrait remettre en question cette famille, cet équilibre-là de la famille.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne le plus dans les féminicides, par exemple, pour prendre cet exemple bien précis. Je me dis toujours, mais quand même, ces femmes qui sont sous la violence d'un conjoint, et comme vous le dites, elles ont souvent déjà porté plainte, en tout cas, elles sont conscientes qu'il y a de la violence. Et toujours, je me dis, mais elles n'ont pas une sœur, une mère, une cousine à qui elles peuvent en parler et qui pourrait intervenir.
Ouais, on peut le voir sur plusieurs versants. D'abord, il y a une espèce de pudeur. Une pudeur et puis aussi peut-être la peur
une pudeur de la personne elle-même qui n'ose pas se plaindre auprès d'elle auprès des autres.
Exactement, parce que se plaindre c'est commencer à avouer qu'on s'est peut-être trompé dans le choix de vie, dans le choix du conjoint, dans le choix de comment je vais et donc il y a à la fois la pudeur, à la fois l'espérance, parce que les femmes violentées sont des femmes très croyantes, mais pas au sens religieux mais au sens biblique, c'est-à-dire qu'elles espèrent toujours que ça va s'arranger. Parce qu'elles espèrent, elles ont investi cette entité de couple et de famille comme une finalité, si vous voulez. Donc, chez la femme violentée, très souvent, au départ en tout cas, il y a ce besoin de croire en elle-même et en cette famille qu'elles veulent fonder.
Ça se comprend parce que souvent elles ont aimé ce partenaire violent.
Bien sûr.
Et quelque part, elles l'aiment parfois encore. Enfin, moi, j'ai été frappée parfois par des témoignages où, justement, malgré tout ce qu'elles subissent, elles continuent à aimer. Et c'est peut-être ça aussi qui les empêche de parler.
Et c'est la difficulté. Et après, quand elles sont vraiment impactées par les faits, c'est-à-dire la maltraitance, qui devient une maltraitance avec des insultes, une maltraitance, on se fait frapper, on se fait violer, parce que le viol existe au sein du couple, bien évidemment. Il est même décrit dans le code de procédure pénale maintenant. Il peut très bien y avoir un viol dans le cadre de la conjugalité. Donc après, vient par-dessus la peur de se dire, ce conjoint, parce que effectivement, majoritairement, c'est des femmes qui sont maltraitées par les hommes, mais on a aussi l'inverse. Hein, on a un décès tous les 12-13 jours, il y a un homme qui meurt sous les coups de son conjoint. Donc, il y a aussi la peur de dire, voilà, si elle se rend compte ou s'il se rend compte que je suis en train de demander à l'aide, il va me tuer. Donc, il y a le silence que je m'impose moi-même au début, mais après, quand ça monte de crescendo, il y a le silence, bien évidemment, imposé par l'auteur, par le conjoint violent. Et ça, c'est compliqué de libérer la parole par rapport à tout ça. Et viennent après, comme je vous disais, des plaintes qui ne sont pas suivies. Et quand même une femme aujourd'hui porte plainte, il est très rare qu'on lui propose d'emblée, au moment du dépôt de plainte. Ça veut dire qu'on n'a pas encore regardé si la plainte était justifiée ou pas, mais on laisse repartir ces femmes chez elles. On ne leur demande pas où est-ce qu'elles vont loger, on ne leur propose pas un logement alternatif en disant, voilà, bah pour 15 jours, on va vous mettre là, le temps d'étudier le dossier, de voir, d'entendre monsieur.
Donc c'est des femmes qui sont
livrées à elles-mêmes.
En même temps, c'est vrai que c'est compliqué. Et en ce qui concerne les enfants, on pourrait penser aussi qu'à l'école, on devrait se rendre compte quand un enfant est violenté. C'est parfois le cas, mais malheureusement, très souvent, c'est pareil. L'enfant ne dit rien. Et...
ce qui est intéressant, c'est si on parle de chiffres, aujourd'hui, 40% des signalements viennent de l'école, du collège ou du lycée. Donc, on a déjà des...
Ça avance,
Voilà, on a des encadrants scolaires et périscolaires, parce que notamment dans l'école maternelle, dans l'école primaire, il y a aussi les ASM, hein, qui s'occupent de tout ce qui est périscolaire. On a des gens qui ont déjà une sensibilité et des gens qui commencent à se former et qui se forment de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ces gens peuvent faire des signalements, mais très souvent, on se rend compte que dans l'ordre hiérarchique, parce que si vous voulez, l'enseignant dépend du rectorat et l'ASM dépend de la mairie quand on est dans les écoles primaires et des écoles maternelles, par exemple. Ben, on fait le signalement parfois, on a des chefs de service qui ne savent pas trop que faire de ça. Est-ce que ça relève d'un règlement intérieur? Est-ce que ça relève de procédures liées à la municipalité, par exemple? Ou est-ce que c'est un signalement qu'on doit faire auprès d'un procureur? Et donc, il y a une carence de ce côté-là informative, et moi, je milite dans ce sens-là. Et je rejoins une association qui s'appelle Les Maltraitances, moi j'en parle, qui est une association qui œuvre auprès des enfants et auprès des encadrants scolaires et périscolaires. Et l'idée, c'est de pouvoir à la fois dire aux enfants qu'ils ont le droit de parler, ils ont le droit de libérer leur parole, notamment à l'école, parce que c'est là, c'est un refuge l'école, hein, pour ces enfants qui sont dans des situations
très familiales. Oui, j'imagine.
Et la deuxième chose, c'est d'informer et de former tous les encadrants scolaires et périscolaires sur comment on recueille la parole, qu'est-ce que c'est que le psychotrauma, et puis aussi quelles sont les obligations, j'allais dire presque légales, de signalement. Quand on est au courant d'un fait, on a le devoir normalement de faire un signalement auprès du procureur en disant voilà, j'entends des violences à côté de chez moi, je tenais à signaler à quel endroit, j'entends régulièrement des cris. On incrimine une personne, par contre on signale qu'il se passe des choses qui sont un petit peu hors du commun.
Absolument. Bon, eh ben, on va essayer pendant ces deux heures, grâce à vos témoignages, de faire mieux comprendre à tous ceux qui nous écoutent, parce que, encore une fois, je ne cesserai de le répéter, la société de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et si on a envie d'une société plus apaisée, eh bien, autant qu'il y ait moins de violences intrafamiliales. Vous avez la possibilité de nous appeler au 0826 300 300, que ce soit pour témoigner ou poser des questions à Bruno Poncenard. S'il y a des choses qui vous semblent un peu difficiles à comprendre, n'hésitez pas à nous appeler. Nicole est avec nous dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Bruno Poncenard aujourd'hui, sexologue clinicien, nous évoquons les violences intrafamiliales, c'est-à-dire qu'on se comprenne bien, hein, les violences dans une famille, c'est-à-dire que ce sont des violences entre membres de la même famille, ce qui paraît comme ça invraisemblable, puisque il semblerait quand même, quand on est en famille, on s'aime, mais vous allez le voir sans doute au sujet de tous ces témoignages que nous allons recevoir, que c'est malheureusement loin d'être le cas. Nicole, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte Lahaye et bonjour Monsieur Bruno Poncenard.
Bonjour Nicole.
Merci Brigitte pour toutes vos émissions que j'écoute au quotidien.
Merci beaucoup Nicole, voilà, de votre fidélité. Ouais, on fait une grande famille aussi, mais chez nous il n'y a pas de violence. Hein. Il y a de l'amour.
Voilà, donc comme j'entendais tout à l'heure Monsieur Poncenard nous dire que c'est vraiment huis clos que ça se passe en famille. Moi j'ai subi des violences de la part de mon père à partir de l'âge de 10 ans, quand ma grand-mère est décédée, je pense que j'étais protégée par elle. Donc, on était une famille de 8 enfants.
Et, c'était la mère de votre père, la grand-mère dont vous parlez ?
C'était la mère de ma mère.
De votre mère, d'accord.
Donc, elle vivait chez nous.
D'accord.
Donc, on était 11 dans la famille. Et donc, quand elle est décédée, le jour même de son décès, mon père m'a dit, bah, écoute, voilà, ta grand-mère vient de décéder. Et donc, c'est terminé pour toi la protection. Tu vas savoir ce que c'est d'avoir un père. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu, entre guillemets, une enfance heureuse, sans me poser de questions. Bon, j'étais bien avec ma grand-mère, on s'en allait en vacances toutes les deux, c'était très bien, bref. Et donc, eh ben oui, j'ai subi pendant de 10 ans à 14 ans, donc des violences physiques et psychiques, c'est-à-dire des gifles, des coups de pied dans les fesses, parce que j'étais une enfant quand même qui me révoltait par rapport à certaines façons de sa procédure à lui, quoi.
Oui, enfin, ça ne justifie pas sa violence, hein, même voilà. Si vous étiez très rebelle, hein, Nicole.
Voilà, j'étais très rebelle, après c'est ce que m'ont dit mes sœurs, mais donc des gifles, des coups de pied aux fesses avec des chaussures en cuir, enfin c'est ce qu'on appelait les goudillots avec des pointus en dessous, des semelles pointues, et c'était aussi des gifles, parfois j'étais simplement installée en train d'écrire ou d'étudier, et je recevais une gifle parce qu'ils me disaient ça, c'est par rapport à il y a 3 semaines, quand je t'ai couru autour de la table et que t'as pas voulu obéir. Donc,
Et voyez, Nicole, je me permets d'intervenir, mais c'est pour expliquer à ceux qui nous écoutent. Hein. Donc, il y a évidemment une violence physique, une violence humiliante, mais il y a également quelque chose qui est très, très, très pervers. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous recevez quelque chose de violent pour quelque chose que vous auriez subi il y a 3 semaines. Et quand on est enfant, ça fausse complètement les repères. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel moment ça va tomber, ni pourquoi. Et ça, c'est terriblement déstabilisant, hein, Bruno Poncenard.
Bien sûr, parce que l'enfant, il n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre un peu du sadisme et de même, je vais utiliser un mot, de perversion. C'est de vous faire payer une note, si tant est que vous auriez dû la payer à l'âge que vous aviez, des jours et des jours et des jours après, quoi. C'est C'est-à-dire que pour l'enfant qui vit ça, il a l'impression de prendre perpète parce qu'il sait que de toute façon, à un moment donné, ça va tomber. Si ce n'est pas pour une erreur ou une bêtise du jour, on va lui rappeler à son bon souvenir la bêtise qu'il a fait il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Et c'est vrai que c'est terrible, quoi. Alors, on voit bien que dans votre histoire, il y avait un système qui était en place avec une grand-mère qui protégeait.
Oui.
Un papa qui, a priori, se soumettait plutôt bien à cette autorité, et que le jour où cette autorité n'était plus là, ça a laissé libre cours à ses délires, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, pour moi, comme pour mes sœurs, d'ailleurs.
Oui.
Et quand mes sœurs faisaient des bêtises, comme ça peut arriver, et bien c'est toujours moi qui prenais pour elles, en fin de compte. C'est-à-dire que
vous étiez le souffre-douleur.
Voilà, tout à fait. C'est le cas de le dire. Et donc après on a eu une éducation religieuse catholique. Donc on n'avait pas le droit de parler à table. On n'avait pas le droit de fallait se tenir les mains plates sur la table. On n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de
mettre les coudes sur la table, pas de couper la parole.
Ils tournent autour de la table sans prévenir et puis ping, ça tombait, quoi.
Voilà, ce que j'appelle, moi, la marteau-thérapie, quoi.
Ouais.
L'éducation pour les nuls. Alors, c'est vrai que les parents... parce que dans le sujet, il y a comment reconnaître les parents toxiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'apprend pas à être parent. Et qu'il y a des parents, effectivement, qui savent que ce qu'ils font n'est pas adapté et qui sont réellement dans une intention. Mais il y a aussi des parents qui sont toxiques ou en tout cas néfastes pour l'enfant, mais par ignorance, parce qu'on ne leur a pas appris.
Oui.
Et donc, on croit que c'est comme ça. On croit qu'on dresse les enfants. Au lieu de les éduquer, on devrait expliquer aux parents qu'élever un enfant, c'est lui faire prendre de la hauteur, par exemple. Ça, c'est le béaba. Maintenant, là, on est dans des systèmes... je ne sais pas, je vais être indiscret, quel âge vous avez ?
Aujourd'hui ?
Oui.
J'ai 63 ans.
Voilà, donc c'est un problème générationnel, et c'est vrai que moi j'ai vécu un peu la même chose, où l'éducation, on n'était pas vraiment dans la pédagogie, on était vraiment dans, on fait comme ça, et puis c'est comme ça que ça se passe, et puis c'est pas grave.
Oui, d'ailleurs quand j'en parle autour de moi, ça arrive d'en parler avec des connaissances, des amis, c'est des gens de notre génération, ils ont vraiment connu ça, que ce soit les garçons ou les filles. Hein.
Bien sûr.
Où à la fin il fallait rentrer et puis il fallait avoir que du 20 sur 20 en classe, enfin bref, des choses...
C'était l'éducation autoritaire. Je crois que vous vouliez parler aussi de violences sexuelles, hein, Nicole.
Oui, j'ai subi l'inceste à l'âge de 14 ans.
Alors, on va revenir là-dessus parce que c'est important également de vous écouter, mais je vous propose qu'on fasse une toute petite pause et puis on vous retrouve tout de suite, Nicole. Restez avec nous.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours en compagnie de Bruno Poncenard, nous évoquons les violences intrafamiliales. Alors, je crois que c'est intéressant d'écouter Nicole. Elle vient de parler évidemment de ces violences physiques. Elle va nous parler maintenant de ces abus sexuels. Et je vous demanderai de réagir après, Bruno Poncenard, pour que vous nous disiez si c'est souvent lié ou pas. Parce que moi, j'ai l'impression justement que c'est assez souvent lié. Bonjour, Nicole, on vous écoute ?
Oui. Donc, j'ai subi le viol, puisqu'on dit l'inceste, mais bon, je considère plus que c'est un viol, à l'âge de 14 ans. Donc, avec...
Mais par votre père ?
Par mon père, oui. Avec des menaces de mort, que si je criais, il allait me tuer. Donc, ce qui fait que dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, parfois, je n'ose pas prendre la parole, parce que bon, selon avec qui on se trouve, je mesure mes propos. Et donc menace de mort, et à deux fois donc il m'a violée. Ça se trouvait toujours quand ma mère était absente pour X raisons, vu qu'il y avait 8 enfants à s'occuper. Et de là, j'en ai parlé à ma sœur. C'est pour ça, tout à l'heure, Monsieur Poncenard disait que faut essayer dans les familles où ça arrive de trouver quelqu'un pour en parler. Donc j'en ai parlé à ma sœur qui est un peu plus jeune que moi, qui a 1 an et demi de moins, et en lui en parlant, je lui dis voilà ce qu'a fait papa, et elle me dit moi aussi.
Ah oui.
Donc, bien sûr.
De là, on s'est protégés toutes les deux. C'est elle qui en a parlé en premier à ma maman.
C'est votre sœur aînée, Nicole ?
Non, c'est ma sœur en dessous moi. C'est-à-dire
plus jeune.
plus jeune, qui a un an et demi de moins que moi. Donc, moi, je, par pudeur ou par crainte, je n'osais pas en parler à ma mère. Et comme on s'est confiés toutes les deux, elle, elle avait plus d'assurance pour aller lui en parler, lui dire, voilà, maman, ce qui se passe dans la famille, parce qu'on a su après que j'ai mes deux sœurs aînées qui étaient aussi, qui ont aussi été violées, mais qui, elles, n'en ont pas parlé.
Oui, mais ce qui est horrible, c'est que votre petite sœur, elle avait donc 12 ans et demi quand elle se fait violer par son père.
Voilà. Donc, c'est scandaleux. On s'est protégées toutes les deux. Et puis après, eh bien, ma mère, elle a fait ce qu'il fallait pour prévenir la gendarmerie. Et comment dirais-je, à cette époque-là, peut-être que les femmes étaient mieux, plus entendues ou mieux, je ne sais pas. Bref, et la gendarmerie a fait ce qu'il fallait. Donc, ils sont allés arrêter donc, ce bourreau à son travail parce que ma mère avait cette crainte qu'un jour ou l'autre, ils mettent le feu à la maison ou ils tuent tout le monde. C'était ses propos. Parce que c'était une famille quand même... ça criait...
Oui, il y avait beaucoup de violence.
Beaucoup de violence verbale. Et j'ai appris plus tard que ma mère avait été battue par mon père et que mes sœurs aînées, qui n'avaient jamais parlé avant que ce soit nous deux, les deux plus jeunes, ont subi des violences beaucoup plus abjectes. Elles n'ont jamais voulu entrer dans le débat, mais quelques brides de conversation quand on était ensemble, j'ai compris.
Vous étiez combien de filles dans cette famille, Nicole ?
6 filles.
Combien, pardon, 6 ?
6 filles, il y avait 6 filles et 2 garçons.
Donc, on imagine bien qu'il y a 6 filles qui ont subi des abus sexuels.
Les 4.
Et qui ont...
Quatre. Les 4 premières.
En tout cas, 4.
Oui,
oui. Oui, oui. Oui. Mais c'est quand même assez. C'est terrible ce que vous nous racontez, Nicole. Et justement, Bruno Poncenard, est-ce que. Bon, là, on a affaire évidemment à quelqu'un qui est complètement pervers, évidemment. Mais est-ce que c'est souvent que la violence physique entraîne aussi une violence sexuelle, Bruno Poncenard ?
Alors, j'ai pas de statistiques à vous donner parce que je ne les connais pas, hein, tout simplement. Hein. C'est par méconnaissance. Oui. Je sais pas si des statistiques existent. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'inceste, et vous avez raison, l'inceste est un viol. Un viol d'autant plus grave que
c'est le père.
C'est le père, voilà, et c'est un abus. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce soit la maltraitance physique, psychique, sexuelle, le but de l'auteur, c'est de faire du mal, en fait. C'est d'avoir le pouvoir et de dénier à la personne la possibilité de se défendre. C'est ça qui se passe dans le mécanisme. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, c'est pas mon enfant que je dois protéger, c'est un objet dont je dispose. Je me sers de cet enfant pour assouvir tous mes désirs ou tous mes délires. Ça dépend de quel côté on se porte. Donc c'est très bien que cette maman ait pu vous écouter. Dans votre malheur, je dirais que vous avez de la chance d'avoir une maman à l'écoute et qui a été capable d'aller voir les gendarmes et de mettre fin à ses actes. Parfois, on a des mamans qui sont dans l'incapacité d'aider les enfants, qui se retrouvent complètement sidérées et qui ont peur, parce qu'elles ont peur d'abord de leur mari, et vous parlez de la maltraitance de la maman aussi. Très souvent, on parle de violence intrafamiliale systémique, c'est-à-dire que c'est un système où il y a un bourreau qui fait du mal à tout le monde. Voilà, et c'est bien que votre maman, malgré les violences subies, ait pu se positionner et dire, voilà, maintenant je vais voir les gendarmes et on va mettre fin au...
Oui, fin à toute cette maltraitance, oui.
Et oui.
Je la remercie jamais assez, même si elle est décédée. Depuis, voilà, il y a toujours une pensée, il y a toujours. Oui, c'est pour ça, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Poncenard, que dans ces familles, il faut essayer de trouver quelqu'un qui puisse entendre.
Bien sûr.
Et avoir une personne qui puisse aider et aller, je sais pas moi, déclarer en gendarmerie qu'il y a de la maltraitance et autres. Mais souvent, les gens sont réticents. D'ailleurs, quand dans la famille, dans le village où nous habitions, ça s'est su, alors que normalement c'était du huis clos, au niveau de la justice, ça s'est quand même su. Eh bien, nous avons été la risée des commérages du village, quoi. On ne voulait plus nous voir, on nous a traités de tout nom, comme quoi on était d'accord. Pourtant, ma mère, qui était très catholique, en a parlé aussi aux prêtres, en a parlé aussi aux gens de la religion catholique, ils ont dit mais vous n'aviez pas à déclarer votre
mais c'est ce que vous, Nicole, c'est ce qu'on entend souvent hein, dans ce que vous dites, c'est que il y a un jugement comme ça, comme si on n'avait pas envie de savoir que ça peut arriver et que quand ça arrive et qu'on est au courant, ça nous met mal à l'aise et finalement on accuse presque les victimes. C'est assez. Alors je pense que ça a quand même un peu changé ça, non, Bruno Poncenard?
Ça commence à évoluer, mais vous voyez, Nicole, moi je vous remercie pour ce témoignage qui est précieux. Précieux par rapport à ce que je vous ai dit au début, on retrouve plein de choses. Brigitte demandait tout à l'heure pourquoi on a du mal parfois à parler. Tout simplement que quand on a l'éducation que vous avez, on n'a pas le droit à la parole. Si on commence à être réprimandé parce qu'on a les coudes sur la table pendant qu'on mange ou qu'on coupe la parole, l'enfant se dit « mais si pour des broutilles je me fais détruire, je me fais frapper », pour des choses graves, jamais on m'en croira. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'on est bâillonné. Après, il y a un système. Si je vois que maman est maltraitée, même si vous n'avez pas vu des maltraitances physiques, on voit bien qu'il y a un papa qui ne devait pas être un papa très aimant, qui devait même psychologiquement maltraiter maman. L'enfant, il prend ça pour vérité aussi. Donc il se dit, mais c'est normal. Les hommes sont là pour maltraiter les femmes parce que moi, c'est le modèle que j'ai eu. Donc c'est autant de choses qui font que pour libérer la parole, ça devient très compliqué. Et après, souvent, c'est un facteur déclenchant où on se rend compte que la sœur est en danger, ou c'est au moment où je deviens femme et que je tombe amoureuse que je me dis, tiens, pour devenir une femme, il faut que je me libère d'un poids parce qu'on m'a volé quelque chose dans mon intimité profonde. L'inceste, c'est la dénégation du corps, c'est la dénégation de la sexualité de l'enfant, c'est de la dénégation de l'être que je suis. Être avec un grand E, hein. Voilà, votre témoignage il est important parce qu'il explique combien c'est difficile, mais aussi quand à un moment donné on fait corps avec la fratrie ou des gens qui sont là pour nous accueillir et pour nous épauler, on peut effectivement libérer la parole. Et voilà, c'est, à mon sens, c'est essentiel ce que vous venez de nous livrer, et je vous dis un grand merci, un grand bravo, Nicole, vraiment.
Oui, Nicole, merci, parce que votre témoignage montre à quel point la violence intrafamiliale peut être grande, et je crois qu'on commence avec un témoignage qui a vraiment beaucoup de force. Merci beaucoup, Nicole, et j'espère que ça va mieux, et puis je vous souhaite d'aller encore mieux. Merci beaucoup, Nicole. Philippe Hoffmann, excusez-nous, on vous prend un petit peu en retard, mais bonjour. C'est pas grave, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la crise des ados. Non, ils ont des crises, les ados, je crois pas.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la crise des ados, et puis la semaine prochaine, je vous parlerai de la crise des parents. Hein, vous verrez que c'est lié, tout ça. Alors, je craque, j'en peux plus de le voir comme ça. Un jour, il rayonne, le lendemain, il est effondré, chagrin, et hop, un coup de fil, ça repart, il éclate de rire. Son père, qui le voit le week-end, me dit « c'est sa crise, ça passera ». Mais non, ça passe pas. Ça dure depuis des années, j'encaisse tout. Vivement qu'il parte. Petit clin d'œil à toutes ces mamans solo qui se débattent comme elles peuvent avec leurs ados sans père et sans repère. Ah, la fameuse crise d'ado. Un drôle de ménage hein, dans la vie familiale. L'enfant sage et docile a disparu. La rupture avec le monde de l'enfance, c'est rude. Autant pour les jeunes d'ailleurs que pour leurs parents. Les jeunes sont déréglés, leur corps est envahi d'hormones, on en a parlé, et leur esprit chavire. Ils dorment mal, ils sont épuisés, les parents aussi. Les ados sont nerveux, imprévisibles, leurs humeurs changent du matin au soir. Depuis des décennies, on nous parle de crise en tout genre, économique, sociale, familiale, conjugale, de l'autorité et maintenant de l'identité sexuelle. Ça n'arrête pas. Les jeunes sont toujours au creux de ces crises de civilisation. Mais est-ce que c'est bien la jeunesse ou la société qui va mal? Pour les psys, la métamorphose totale, physique, psychique, cognitive, sociale, c'est un truc volcanique. Un mélange explosif de pulsions sexuelles et agressives. Tout est réuni pour que ça pète. Pour éviter l'éruption, les jeunes mettent en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Ils râlent, s'opposent, régressent, mangent chalement, puent, lâchent leur passion et leur jeu d'enfant. Et pour affirmer leur identité un peu floue, ils se détachent du monde des adultes, ils s'inventent des codes, ils se collent à leurs semblables. En groupe, ils se sentent moins étranges.
En fait, Philippe Hoffmann, cette crise, c'est justement parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sentent des tas de choses qui bougent sans trop savoir et sans trop avoir encore les bons repères. Et c'est pour ça qu'ils sont, ils sont aussi pénibles.
Oui, voilà, c'est ça. C'est, ils ont vraiment une sensation d'étrangeté, une sensation un peu énigmatique. Il n'y a pas de réponse et donc il faut... Il faut que ce soit de la faute des autres et en particulier des plus proches, des parents. Et
évidemment.
Puis, en même temps, en faisant ça, ils font comme tous les autres et tous leurs copains et leurs copines et ils fondent leur génération, quoi. En fait, ils quittent le long fleuve tranquille de l'enfance pour se lancer dans les rapides. Ils n'ont aucune visibilité, mais ils ont une envie irrépressible de se lancer. Il faut résister pour exister. Certains sont plus des téméraires, ils se lancent à corps perdu. L'expression, elle est belle, hein, parce que justement, tous ces jeunes qui voient leur corps qui disparaît, toute cette stature d'enfant qui s'éloigne, dont il faut faire le deuil. Et derrière l'excitation de l'aventure, il y a tout de même un sentiment de perte et d'abandon. Il faut faire le deuil de l'enfant, mais aussi du maternage qui va avec. C'est pas si facile. Intérieurement, ça crée une tension terrible. C'est ce que les psys appellent la conflictualité psychique. C'est-à-dire, il y a un conflit dans le psychisme. Alors, c'est insupportable. L'ado, il tente de s'en libérer en rejetant toutes les fautes sur ses proches. Mais là encore, il est rattrapé par la culpabilité et aussi la honte. J'insulte ma mère, mais au fond, je l'aime. J'espérais tant grandir et en fait, je deviens horrible. Chez une minorité d'entre eux, ça peut mal tourner. Hein. Il y a des comportements extrêmes, évidemment. Alors bon, c'est plutôt 10 à 20% d'entre eux, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas la majorité. Une mise en danger de soi, des autres, des provocations, des refus scolaires, des conneries répétitives. On retrouve toute la panoplie du mal-être adolescent chez les garçons, qui s'extériorisent un peu plus. C'est l'agressivité, l'échec scolaire, les fugues, les drogues, les violences physiques et sexuelles. Chez les filles qui sont plus intériorisées, c'est la dévalorisation, l'attaque du corps scarifié, amaigri, boursouflé, des excès sexuels, des excès toxiques aussi, et même parfois des suicides plus fréquents chez les filles. Tout cela est très inquiétant.
Les filles se suicident plus que les garçons?
Ah bah incontestablement, quand aux urgences vous avez pour les tentatives de suicide, vous avez 200 000 tentatives de suicide par an de filles pour même pas 10 000 de garçons quoi.
Donc c'est pas vrai. C'est marrant, j'aurais pas du tout imaginé qu'il y avait une telle différence. Vous l'auriez imaginé, Bruno Ponstar, vous étiez
tout à fait. La fille va passer à l'acte alors. Dans ces 200 000, la plupart sont ce qu'on appelle des tentatives d'appel, c'est des appels au secours, et on fait en sorte de mal se suicider parce qu'en fait, on veut inconsciemment qu'on s'occupe de soi, mais c'est vrai que les filles sont beaucoup plus dans la scarification et dans l'automutilation que les garçons.
D'accord.
Ouais. Alors, il y a aussi de très rares jeunes qui sont, aujourd'hui, sont plus rares, hein, très sages, dociles. On dit qu'ils font une adolescence blanche. Eux, ils restent soumis au désir des parents d'en faire des petits jeunes parfaits. Ils obéissent totalement, ils deviennent des gentils petits objets de désir et après, ils deviennent des adultes très névrosés. Ils se révolteront bien plus tard, à 40 ans, en explosant leur petite vie rangée pour en découvrir une autre, plus aventureuse et peut-être plus dangereuse. En fait, chaque jeune, à sa manière, discrète ou caricaturale, traverse une crise. Elle peut être très inquiétante, mais pourtant, elle présage pas forcément un avenir pathologique. Rappelons qu'avec tous les ados, il faut rien lâcher. Par leur provocation, ils testent la solidité des liens affectifs et ils ont un immense besoin de sécurité que les parents sont les plus à même de leur apporter.
Et ben voilà, comme ça, vous serez moins inquiet si votre ado est un petit peu pénible. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann. Merci beaucoup. Et donc, on a compris, la semaine prochaine, vous nous parlerez de la crise des parents.
Vous bravo pour cette chronique éclairante.
Formidable, hein, comme toujours, d'ailleurs.
Ah oui, ouais, vraiment.
Merci Philippe Hoffmann. Dans un instant, c'est Florence qui va témoigner, qui a déposé plainte contre son ex-conjoint. Tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bruno Poncenard est avec nous et nous évoquons les violences intrafamiliales. On vous invite évidemment à réagir au 0826 300 300, soit pour témoigner parce que ça vous concerne, ou peut-être pour poser des questions, pour savoir comment vous pouvez peut-être venir en aide à quelqu'un qui a l'air de subir justement ces violences. C'est l'affaire de tous, comme je le disais en introduction. Bonjour Florence.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Donc, vous avez porté plainte contre votre conjoint, puisqu'à l'époque, c'était votre conjoint. Hein, maintenant, vous êtes séparés, parce qu'il était violent vis-à-vis avec vos enfants, hein, c'est ça?
Oui, donc en l'occurrence, évidemment, ça démarre, les attaques vis-à-vis de l'autre conjoint. Et puis, ben, très vite, ça dégénère aussi avec les enfants, dans la mesure où, de toute façon, dès le départ, ils sont exposés. Hein, rien que le fait de d'être témoin, en fait, des violences, oui, voilà, qui sont subies par l'autre parent, les met déjà en difficulté. Et puis, après, effectivement, c'est un moyen aussi pour le conjoint violent, en fait, de vous faire encore plus de mal, puisque il sait que vous tenez à vos enfants, et donc du coup il passe par eux également, en fait, pour essayer de vous atteindre davantage, quoi.
Alors Florence, qu'on comprenne bien, vous, il vous battait, il vous insultait, qu'est-ce que vous subissiez?
Dès le départ, assez tôt, on va dire, dans la relation, il a commencé à avoir des gestes violents. Donc après, c'était des objets qui étaient balancés par la fenêtre, des menaces, des choses comme ça. Et puis après, au départ, il n'y a pas eu de violence directe. Voilà, ça a toujours été des menaces avec tout ce qui passait par là, des réactions quand même assez disproportionnées. Et puis après, toujours un espèce de retour en arrière, en s'excusant, on avait l'impression qu'il y avait une perte de contrôle dans certaines situations. Après, quand on est dans l'engrenage, on dira, avec la famille, avec les gens autour, on a un peu du mal à partir et à déjà comprendre ce qui se passe, hein, quand on n'a pas vécu ça par ailleurs. On essaie de d'analyser. Alors les uns et les autres, ils vont de leurs petits commentaires à dire voilà, c'était une fois, c'est pas grave, mais c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Donc on se dit c'est peut-être nous qui voyons pas le bon côté du verre, il y a peut-être des motifs, et puis au fur et à mesure, ça s'installe, quoi. Et puis on part dans un
espèce d'engrenage. On s'habitue finalement à des choses qui sont inacceptables.
Exactement. Et puis après, le gros, c'est surtout du harcèlement moral, en fait, hein, qui est quand même le gros des violences intrafamiliales en général, qui est sous-jacent. Excusez-moi.
C'est pas grave.
Tout va bien. Ouais. Je suis un peu perturbée encore. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans que je suis plus en contact et je suis encore dans l'émotion. Et après, effectivement, c'est les enfants qui deviennent les victimes parce que malheureusement, avec l'appareil judiciaire, des fois ils arrivent à récupérer, ce qui a été mon cas, récupérer la garde des enfants, sachant qu'effectivement, on voit bien que qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt premier pour l'enfant et que c'est vraiment des manipulations pour vous faire du mal et du coup pour faire du mal aussi aux enfants, quoi. Donc, c'est un petit peu le...
Ce qui est intéressant aussi dans votre témoignage, Florence, à signaler pour les auditeurs, ce harcèlement moral que vous avez subi, aujourd'hui, je crois qu'on en prend conscience et je pense que à peu près tout le monde sait que c'est également de la violence. C'était peut-être pas le cas quand vous l'avez subi parce qu'on n'en parlait pas beaucoup de ce harcèlement moral.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça explique que mes affaires sont encore en instruction judiciaire et autres, parce que le dossier avait été très mal présenté dès le départ par mes connaissances, en fait, des juristes qui avaient démarré. Et en fait, moi, j'ai rattrapé un petit peu les choses avec des avocats plus aguerris, plus connaisseurs, finalement, de la législation, des années après.
Et voilà. Donc, et alors, votre témoignage est hyper important parce que la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, notre droit français se nourrit de ce qu'on appelle la matérialisation de la preuve. C'est-à-dire que je vais faire un mémoire de balle, pardonnez-moi par avance, mais quand on a quelqu'un qui porte plainte pour des violences, on aime bien qu'elle ait un bon hématome, qu'il y ait un examen médical qui prouve qu'elle a bien été violée, et voilà. Ça, parce qu'on matérialise, on peut voir. Ce qu'on a eu du mal à voir avant, c'est tout ce qui est les violences, ce qu'on appelle les violences dites silencieuses, violences économiques, violences sociales, violences psychiques, l'isolement, je te prends la carte bleue, etc., etc., je t'éloigne de tes amis. Et aujourd'hui encore, il y a encore des failles dans le droit français parce que la violence dite silencieuse n'est pas une violence matérielle. Donc elle est difficile à matérialiser et c'est pour ça que bien souvent, quand on est avec un OPJ ou un procureur qui n'est pas très très au fait de ce qui peut être la psychologie, ben on va avoir des classements sans suite très très souvent. Et vous avez raison, vous avez dit quelque chose d'important, c'est le gros des violences n'arrive pas forcément devant un tribunal. Après, on en arrive parfois à ce qu'on appelle l'escalade de la violence qui va jusqu'au féminicide, mais très souvent, c'est un peu traité de façon... et on confond en fait un conflit conjugal de la violence conjugale. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible et sensibilisé.
Oui, ça me paraît. Je pense que ce que vous venez de dire, Bruno Constant, mérite d'être mieux expliqué. Donc, on va le faire tout de suite après les infos. Oui, justement, quelle est la différence entre un conflit et la violence conjugale. En tout cas, merci beaucoup, Florence, pour votre témoignage, parce que là encore, on voit bien comment toute cette violence intrafamiliale, elle est multiple. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes toujours avec Bruno Poncenard. Vous avez demandé qu'on traite les violences intrafamiliales et on a déjà eu deux témoignages tout à fait qui montrent bien la difficulté à la fois pour les personnes qui sont victimes et puis la difficulté à sortir de ce huis clos familial puisque c'est pas si évident que ça évidemment de pouvoir montrer à quel point on est victime d'un bourreau comme l'a dit très joliment Nicole tout à l'heure. Bruno Poncenard, juste avant les infos, vous nous parliez de la différence entre conflit conjugal et violence conjugale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'au fond, à partir de quand on sait qu'on est vraiment dans de la violence avec son conjoint ou si ce n'est juste un conflit comme il y en a toujours forcément dans les couples?
Si je le ramène sur les instances judiciaires, le conflit conjugal va se régler sur le juge d'affaires familial, et il y aura un jugement civil. Ça va être, par exemple, les modalités de garde. Moi, je veux l'enfant, non, toi, tu veux l'enfant, non, voilà. Donc là, on est sur un conflit, on n'est pas sur une violence conjugale. On est sur une divergence d'opinion et on demande à un magistrat de statuer pour aider à décider et à prendre une décision qui satisfera personne. Mais voilà, donc ça c'est sur le plan judiciaire. Le conflit, c'est on le vit tous les jours. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, nous on s'engueule, moi ça fait du bien en couple. C'est est-ce que je veux vivre en ville ou est-ce que je veux vivre à la campagne? Ça peut être un contentieux, un conflit dans un couple. Et puis à un moment donné, on prend une décision et on coupe la poire en deux et on vit en ville et on se paye un mobil-home à la campagne par exemple. Donc le conflit c'est une opposition qui est légitime ou en tout cas c'est une divergence d'opinion, mais le conflit ou l'opposition n'arrive pas forcément à la violence. La violence ça serait vouloir régler le conflit par la force.
C'est ça,
et donc
oui.
Si tu n'es pas d'accord avec moi, je commence à te maltraiter, je commence à te frapper, je commence à t'interdire de sortir, voilà. Et là, on est dans les violences conjugales. Et le témoignage était important tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, même si dans le droit, c'est encore un petit peu flou, cette notion de violence silencieuse, violence psychologique, on commence à avoir de la jurisprudence et des décisions qui s'appuient sur ces notions-là de violence psychologique, de violence... sexo-spécifiques, de violences économiques. On arrive à démontrer que ça va au-delà d'une opposition ou d'un conflit, s'il y a vraiment quelque chose de violent dans ce qui est fait. Et donc c'est vrai qu'on...
En d'autres termes, si je peux essayer d'éclairer encore plus l'auditeur, c'est finalement quand l'autre impose de manière totalement indiscutable ce qu'il veut, quoi.
Voilà. c'est ce qu'on appelle le tyran domestique, quoi, celui qui dit non.
Oui.
J'ai dit, donc c'est comme ça. Et très souvent, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui a la force, et l'homme s'impose par la force.
D'accord. Voilà. Bon, eh ben, merci de...
Il y a un proverbe arabe qui dit « Celui qui bat une femme est une femme ». Donc voilà, j'invite tous les hommes qui veulent régler leur conflit par la violence à méditer un peu là-dessus et à se dire qu'il y a peut-être d'autres voies et d'autres chemins pour arriver à un moment donné à négocier avec sa compagne et prendre des décisions d'adulte et pas des décisions d'autorité.
Absolument. Et aidons les femmes aussi à oser s'opposer et à oser résister et ne pas se soumettre. Parce que je crois aussi que plus on se soumet rapidement au début, plus on risque de devenir de plus en plus soumise. Hein. Je crois que ça, c'est aussi important à signaler aux femmes.
Oui, effectivement, c'est un mécanisme qui est très pernicieux. Au début, il y a une phase de séduction par l'auteur, hein, il y a une manipulation, c'est très souvent des gens... Alors, ce n'est pas forcément des pervers narcissiques au sens psychopathologique, mais en tout cas, c'est des gens qui manipulent, qui sont beaucoup dans la séduction, et petit à petit, ils viennent grignoter un petit peu l'intimité de l'autre, jusqu'au moment où l'autre n'a plus d'intimité, puisqu'il est complètement dépendant du désir du mari maltraitant, du conjoint maltraitant, parce que je le disais qu'il y avait aussi des femmes. Voilà.
Exactement. Thierry est avec nous maintenant. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Les hommes aussi subissent de la violence intrafamiliale. J'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Thierry. Est-ce que Thierry est là? Thierry, vous m'entendez? Non, bon, on a un petit souci. On va récupérer Thierry qui, lui, a subi de la violence de la part de sa mère. Et je suis ravie qu'on ait également un homme qui témoigne parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance, dans l'inconscient collectif, à penser que la violence intrafamiliale, c'est les femmes et uniquement les femmes qui la subissent. Non, il y a aussi des hommes, évidemment, même s'ils sont peut-être moins nombreux.
Oui, vous avez raison. Et c'est vrai que statistiquement, effectivement, si on parle de violence intrafamiliale, très souvent on va passer à l'homme parce que c'est très souvent le fait de l'homme. Maintenant, il ne faut pas qu'on passe à côté aussi de toutes les victimes. Et quand je dis toutes les victimes, je pense aux conjoints, je pense aux époux, je pense aux enfants qui aujourd'hui ont un statut enfin. C'est-à-dire que quand il y a une violence avérée sur le plan intrafamilial et que la femme est victime, l'enfant est co-victime maintenant, légalement. Et ça, c'est important. Oui. Et puis, il y a aussi les personnes âgées qui vivent avec nous. On peut m'attraper aussi.
Thierry, bonjour.
Ouais, bonjour Brigitte.
Bonjour Thierry.
Donc c'est votre
bonjour,
mère hein, qui était...
Bonjour docteur, je ne sais pas comment on dit. Ouais,
Bruno Consenard, appelez-le Bruno.
Bruno, ça ira très bien.
Oui, c'est ça. Bonjour Bruno. Et ouais, c'était ma mère qui était très, très, très spéciale, on va dire.
Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez subi, Thierry? Pour ceux qui nous écoutent, vous avez...
C'était des réactions, j'ai entendu plein de mots, de l'hystérie, des crises, c'est-à-dire que pour rien, elle s'énervait. Et comme j'étais le dernier, je restais à la maison avec elle. Donc c'était le moindre truc qui n'allait pas, c'était des phrases, pas très gentilles, puis ça montait jusqu'à des insultes, alors des trucs pas...
Elle vous insultait et elle vous humiliait, hein, c'est ça? Oui.
Alors, c'était pas de l'humiliation directe, c'était quand elle en avait marre, c'était où tu fais chier, t'es moins rien, petit con, tu vas voir. Alors, une fois, c'était un exemple.
Thierry, excusez-moi Thierry, mais t'es bon à rien, c'est une humiliation, hein.
Ouais. Et alors moi j'ai toujours mis ça sur le compte de la génération, de leur génération quoi. Et puis après ça allait jusqu'à me prendre par les cheveux, m'amener à la cave, m'enfermer dans la cave dans le noir. Elle me disait tu vas attendre que ton père rentre maintenant. Donc je passais une heure dans la cave, dans le noir tout seul.
Ouais.
Thierry, si je peux me permettre de rebondir sur votre témoignage, ce qui est intéressant, là, tout à l'heure on demandait pourquoi parfois on a du mal à parler, et on l'a vu dans votre réaction en disant que ce n'était pas anormal, c'est-à-dire que l'enfant qui est éduqué dans ce contexte-là pense que c'est ça la norme.
Et c'est pas vous savez, quand vous avez 8-9 ans, il y a
bien un sûr.
Mais
bien
vous
sûr.
Vous ne comprenez pas, vous dites j'ai dû faire une connerie, et il n'y a pas longtemps que je vois des psychologues.
Ouais.
D'ailleurs, le mien me fait vous dire qu'il aime très, très bien votre émission, Brigitte.
Non.
Il n'y a que maintenant que vous avez un peu des mots sur des faits, quoi.
Bien sûr, oui, bien sûr, Thierry. Mais
parce que c'est normal.
Parce qu'après, il découvre peut-être des choses qui...
Oui, mais Thierry, ce que je voudrais comprendre, c'est... Donc, vous aviez peur, hein, j'imagine, de votre mère.
Ah oui, c'était le tyran, quoi.
Oui, vous en aviez peur. Est-ce qu'à un moment donné, en devenant plus grand, vous avez eu envie de vous défendre ou est-ce qu'au fond, cette peur était telle qu'elle vous soumettait à elle?
Non, j'étais juste une forme de soumission, mais oui. Très tôt, on va dire à 14-15 ans, je me suis rebellé, je faisais du sport, j'étais hop. Bon, après, quand ça débordait un peu, c'était... Le tyran disait, voilà, tu verras ce soir. Donc, mon père arrivait, elle disait à mon père, il m'a fait chier, je prenais deux claques et c'était réglé, quoi. Mais je me laissais plus faire et...
Sauf que c'est votre père qui vous donnait deux claques ?
Ouais.
Ouais, donc vous aviez même pas votre père qui vous défendait.
Ouais. Non, je cherchais pas à comprendre, c'était rentré du boulot, voilà... Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce qu'elle lui disait, je sais même pas ce qu'elle lui disait en fait. Prenez une bonne raclée et voilà quoi.
Oui, mais vous voyez, c'est important ce que vous venez de dire parce qu'on voit bien que vous n'avez eu aucun des deux parents bienveillants. Même si votre père ne vous a pas spécialement violenté, mais enfin quand même vous donner deux claques alors que c'est votre mère qui est violente, c'est pour vous en tant qu'enfant, c'est je peux pas compter sur mes parents quoi. Donc c'est terrible.
Ça,
hein.
Moi, mais vous vous réfugiez. Alors moi c'était l'école, j'ai abandonné, enfin, j'ai tout laissé, mais c'était mes potes, mais j'avais que mes potes pour avoir pour. C'était... De quartier, j'entends, hein, c'était...
Oui, je comprends.
Pour moi, les parents, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'amour.
Ben oui.
Et après, je suis parti, il y a 18 ans que je suis parti.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Thierry ?
52.
52, oui. Bah, vous voyez, Bruno, 52, il est pas si vieux que ça. Hein. C'était déjà, quand il avait 10 ans, on parlait déjà de qu'il ne fallait pas être autoritaire avec les enfants, etc. Donc, Allez-y, Bruno, pardon.
Oui, et on voit bien que le travail de libérer sa parole, voilà, vous voyez un psy là depuis peu de temps.
Ça fait 2 ans, ouais.
Voilà. Et c'est compliqué parce que comme on est inféodé à cette croyance, à cette éducation, c'est pour ça que en introduction, on parlait de dépister un enfant qui est en danger. C'est d'être à l'écoute de. Ça peut être l'isolement, ça peut être l'échec scolaire, ça peut être l'agressivité. L'enfant peut reproduire l'agressivité qu'il subit. Il peut la faire subir à ses petits camarades. Par exemple. Et on voit bien que c'est un long chemin pour arriver à un moment donné à se dire non, moi j'ai le droit de me libérer, quoi. J'ai le droit aussi de parler.
Je comprends, mais alors c'est vrai que ce qu'il en ressort, j'ai eu d'autres un peu traumatismes, mais d'une autre carrément autre.
Ouais.
Ce qui ressort beaucoup, c'est la mère.
Ouais.
Et ce qui. Bon, après, j'ai beaucoup une grande instabilité en fait. C'est surtout ça qui. Beaucoup de monde.
C'est normal parce que je vais vous donner une image que vous allez comprendre. C'est comme une sorte d'ordinateur qui a été imprimé d'une certaine manière. Donc vous avez l'impression que ça peut toujours vous tomber dessus, qui que ce soit, puisque c'est comme ça que vous avez été éduqué. Mais je vous encourage vraiment à continuer votre travail avec votre psy parce que ça peut avancer. Je veux dire, c'est long. Il faut être courageux, mais franchement, vous avez 52 ans, ça vaut le coup parce que vous pouvez vraiment, ça peut vraiment vous aider et vous faire avancer et vous vous sentirez mieux.
Ouais, et puis vous avez fait plus dur.
J'ai une de mes sœurs qui a vu un psy aussi pendant un an.
Ouais.
Et on en a parlé, mais très peu. C'est pas le sujet, c'est pas facile d'en parler. Elle m'a juste dit un jour, elle m'a dit, tu sais, avec la mère qu'on a eue, il y a forcément des trucs, quoi.
Mais évidemment.
Et là, je me suis dit, mais enfin, peut-être que...
Et puis, si tant est qu'il faille vous rassurer, Thierry, vous avez fait le plus dur, vous avez poussé à la porte du psy. C'est le moment le plus difficile, parce que aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste, quelqu'un qui va vous aider, c'est déjà être en capacité de dire, j'ai un souci, je souffre, il faut que je me fasse aider parce que je n'arrive pas à me faire aider tout seul.
Oui,
donc, même si c'est... Et vous avez fait le plus dur, vraiment. C'est-à-dire,
oui,
voilà,
à l'aide. Et puis, à l'aide. Je dirais même, je suis totalement d'accord avec ce que vient de vous dire Bruno Poncenard, Thierry, parce que ce qui est aussi important, c'est que vous avez accepté de parler à quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez dépassé la honte de ce que vous avez subi, et puis vous avez accepté de demander de l'aide. Et quand on ose demander de l'aide, eh ben, on est déjà à moitié sauvé. Donc franchement,
vous
bravo,
savez,
Thierry.
Le pire, c'est que je ne sais même pas si j'ai honte, mais c'est limite, je ne l'en veux même pas, quoi, parce que je me dis, mais à l'époque, c'était comme ça, quoi. Je me dis, j'ai pris des claques, c'était comme ça. J'ai une autre anecdote, si vous voulez, un jour, il devait m'emmener en voiture quelque part, elle freine parce qu'il y a une voiture devant qui... Ouais. Moi, à l'époque, les ceintures, c'était un peu secondaire. Donc je viens, mais elle, tout doucement, me penche vers l'avant et je me retiens avec les mains. Elle a eu peur, donc de là, j'ai pris une dizaine de claques, elle criait « T'es con, t'es pas t'attacher, t'es tapé, pim, pam, poum », des claques de partout, je lui dis « Ah, j'étais petit ». Et je me suis dit « Ah bah oui, je me suis pas attaché, c'est vrai ». En fait,
surtout
que les gamins, ils prennent le truc dans la tête et...
Ben oui,
c'est ma faute.
Évidemment. Mais c'est incompréhensible de toute façon quand on est affaire à quelqu'un comme ça qui est folle, hein, osons dire le mot. Écoutez Thierry, merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup et bon courage à vous. On fait une petite pause, Bruno Poncenard, et on continue. Et merci à tous ceux qui témoignent au 0826 300 300. On avance grâce à vous.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous continuons avec Bruno Poncenard à évoquer les violences intrafamiliales et ben, malheureusement, on voit bien à quel point les parents sont aussi fréquemment les personnes qui provoquent ces violences. Et Céline, je crois que c'est pareil, hein. C'est comme Thierry, c'est votre mère qui était violente. Bonjour Céline.
Oui, bonjour. Oui, j'ai ma mère qui était violente verbalement en fait. Elle me rabaissait tout le temps, elle m'humiliait, elle me laissait subir des violences sans intervenir, des violences physiques. Voilà.
De la part de
mon papa. De mon papa, elle est intervenue, elle est quand même intervenue un peu plus, mais de mon beau-père, non, pas du tout. Mon beau-père, non, c'est son nouveau compagnon.
Ouais. Voilà. Ah, son nouveau compagnon. D'accord. Quand elle quitte, elle a quitté votre père, elle s'est remise en couple. Et à partir de ce moment-là, elle a laissé son conjoint vous abuser.
Oui. Oui. Elle l'a laissé m'abuser. Elle ne m'a pas cru, d'ailleurs. Elle continuait à m'humilier. Elle a été jusqu'à dire que c'était moi le problème, c'est moi qui étais folle, c'est moi qui inventais. Elle me faisait même prendre des cachets pour me calmer, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et voilà, ça a été très 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 dur.
Et comment j'imagine de cette ornière. Pardon, excusez-moi, vous dites.
Allez-y, c'est pas grave.
Alors, j'ai pas entendu.
Réussi à sortir de ces griffes ?
Eh bien, en fait, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique.
Ouais.
De là, oui. Et de là, ils m'ont sevré. J'ai bien vu que c'était pas ma place. Ils m'ont sevré des médicaments auxquels ma mère me donnait, enfin, les médicaments qu'elle me donnait. Et
ouais.
Ensuite, j'ai été jugée justement en danger.
D'accord.
Donc,
d'accord.
Le problème n'était plus de moi, il était bien de ce que je vivais, de ma mère. Et voilà.
Vous étiez jeune à l'époque alors ?
Quand j'étais en HP, je devais avoir 15 ans quand même. Hein.
D'accord.
Oui, mais là, on se rend compte que vous êtes dans une famille discordante, comme on dit, et on vous a retiré de votre famille.
Exactement.
Oui, mais finalement, c'est tant mieux. Mais enfin, quand même, oui. 15 ans, vous aviez déjà subi suffisamment de choses pour, j'imagine, avoir eu besoin de travailler tout ça. Hein.
Oui, mais puis après, bon, j'avais quand même dû, j'ai toujours cherché l'affection de ma mère, donc en fait, jusqu'à mes 22 ans, j'allais la voir, je lui pardonnais. Voilà, j'ai toujours cherché, même en étant placé en foyer, j'ai toujours cherché à avoir des contacts avec ma mère parce que je l'aimais, quoi.
Et oui.
Ouais, mais elle était gentille par moment avec vous pour.
C'était plus de la pitié que de la gentillesse, en fait, je pense. En fait, moi, ce que j'avais, en fait, vis-à-vis d'elle, parce que gentille, ça lui arrivait vraiment rarement. Hein.
Oui, mais de toute façon, un enfant aime sa mère, hein, quoi qu'il en soit, quoi qu'elle fasse.
C'est ce que j'allais dire, l'attachement à la maman, il est inconditionnel, c'est-à-dire que l'enfant est bon parce qu'il a besoin de sa mère, mais aussi parce qu'il aime, et aussi... Donc l'enfant s'adapte aux parents, même quand les parents sont délirants d'ailleurs. Hein. Et l'enfant ne veut pas couper de lien. C'est compliqué de couper de lien avec sa filiation. Oui. C'est de là que je viens, quoi.
Oui. Le souci, c'est qu'en dans la vie de famille, quoi, on je veux pas dire on va. Je reproduis ce que j'ai vécu, mais disons que j'ai quand même des problèmes au niveau de l'affection que je peux porter à mes enfants. En fait, j'ai du mal à leur montrer. Enfin, je suis là pour eux, ils peuvent compter sur moi, mais j'ai beaucoup de mal à leur montrer que je les aime. Et même, des fois, je me demande même si je les aime.
Alors, oui, c'est important ce que vous venez de dire, Céline, et Bruno Poncenard va vous aider, parce que je crois que c'est important que vous puissiez entendre un conseil un petit peu plus éclairé. Et puis, je pense que ça fera peut-être du bien à d'autres personnes qui nous écoutent et qui ont aussi n'ont pas eu de bons repères avec leurs parents. Et c'est donc difficile d'être un bon parent quand on n'a pas eu les bons repères. Donc, restez avec nous, on se retrouve dans un instant et Bruno Poncenard va vous répondre. Merci, Céline.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Les violences intrafamiliales, on en parle avec Bruno Poncenard. Je crois qu'on a déjà eu un panel assez important de violences intrafamiliales, hein, Bruno Poncenard. Et puis, c'est intéressant ce que vient de dire Céline. Hein, comment être un bon parent quand on n'a pas eu le modèle, hein, quand on a eu une mère qui évidemment nous a massacrés. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à Céline ?
Mais Céline, j'allais vous dire, soyez vous-même, tout en ayant conscience que ce que vous avez appris sur la parentalité, c'est un modèle, et ce modèle, c'est un modèle qui dysfonctionnait. C'est-à-dire que c'est un modèle où maman était violente avec vous, maman laissait faire les maltraitances avec le beau-père, en l'occurrence, et c'est compliqué d'arriver à avoir confiance en soi, surtout quand on a le sentiment de ne pas être aimé. Il y a aussi, je pense, vous allez me dire si je me trompe, mais l'impression de ne pas être légitime en tant que maman, de ne pas avoir appris.
Oui, exactement. Oui.
Voilà. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous et il ne faut pas que vous ayez peur de demander des fois de l'aide, tout simplement, en disant, voilà, vous pouvez aller voir quelqu'un qui est spécialisé autour de l'enfance ou de l'éducation. Ça peut être un psy, ça peut être un accompagnant social. Voilà. On peut très bien demander une aide à la parentalité en disant, voilà, avec mes enfants, vous pouvez même lister, prendre une feuille et un papier, lister tout ce qui ne vous plaît pas dans votre façon d'être mère avec vos enfants et en parler avec un professionnel qui vous réconfortera ou qui vous confortera dans des choix. Qui vous dira, ben là, vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas un guide du bon parent. On n'apprend pas à être parent, c'est les enfants qui nous aident à devenir parents.
D'accord.
Donc, au vu du chemin que vous avez parcouru déjà, faites-vous confiance. Et n'ayez pas de crainte à demander de l'aide, tout simplement.
D'accord.
Et puis Céline, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous parler, mais qui, je pense, parlera à un grand nombre. Ça vous arrive parfois de regarder dans la nature une fleur et de la trouver belle? Ça vous arrive parfois d'avoir face à un animal une émotion, quelque chose qui vous emporte?
Oui.
Et ça vous arrive, quand vous regardez votre enfant, d'avoir envie de lui sourire et d'avoir une émotion qui vous emporte?
Eh ben, beaucoup moins, en fait. C'est ça, le souci, quoi.
Je sais bien, je m'attendais bien à cette réponse. Eh bien, justement, dites-vous bien que quand vous regardez votre enfant, c'est la même chose que quand vous regardez un animal ou un enfant, une fleur, pardon. C'est ça, l'amour. C'est ce courant de joie et d'envie de sourire qui est l'amour. Et si vous avez du mal vis-à-vis de votre enfant, eh bien, c'est ça qu'il faut travailler, parce que c'est malheureusement les restes de votre relation à votre mère qui a été néfaste.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de culpabilité aussi, justement.
Oui, mais parce que vous avez tellement peur de mal faire que vous bloquez cette envie de regarder votre enfant avec amour. Vous voyez ?
Oui.
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous êtes, et c'est pour ça que ce que vous a dit Bruno Poncenard, c'est tout à fait juste. Soyez vous-même. Laissez-vous aller.
D'accord.
N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas faire mal. Parce que si vous étiez quelqu'un qui va reproduire ce que votre mère a produit, vous ne nous auriez pas appelé.
Oui, j'en suis consciente, mais j'aimerais pouvoir les aimer davantage, quoi, en fait.
Mais vous les aimez.
Enfin, je ne sais même pas si c'est aimé. En fait, je sais.
Vous les aimerez pas plus ou pas moins, vous les aimerez mieux. C'est-à-dire que.
Voilà, mieux.
Quand on a. Voilà. En fait, je vais vous le dire très rapidement. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle, les psychanalystes appellent ça la névrose d'abandon ou la névrose d'échec. C'est-à-dire que quand on a un parent qui est maltraitant, on grandit dans une croyance de « je ne suis pas aimable, je ne peux pas être aimé puisque ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas aimé comme j'aurais voulu ». Donc on a un sentiment de non-valeur. Et on se dit « moi, si je ne suis pas aimé, je ne peux pas être aimable en fait ». Et il y a aussi derrière une peur énorme, c'est d'être aimé par ses enfants. Et je vais même être terrible avec vous, c'est peut-être la peur de réussir là où ma mère a échoué, en fait.
Alors, vous voyez, c'est inconscient, alors. Mais
bien sûr. Bienvenue chez les psys, chez les psys. Et les psys, ils traquent ça, ils traquent l'inconscient, et ils essaient de voir quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, inconsciemment, je suis dans la peur de l'abandon, donc pour ne pas perdre l'autre parce que je veux l'aimer, ben, je m'investis moins. Parce que si je m'investis moins, ben, si lui me quitte, j'aurais moins mal, je souffrirais moins.
Oui, vous ne sentez pas bien le cas. Oui. Mes enfants, mes enfants sont un peu plus grands, ils s'éloignent et voilà, je le vis mal.
Vous leur en avez parlé un peu à vos enfants de la maltraitance que vous avez subie?
Oui, un peu. D'abord, ils l'ont vu. De toute façon,
D'accord.
Il y a eu des séquelles, voilà. Mais après.
Mais peut-être qu'un jour, vous pouvez leur dire tout simplement, si j'ai pas été aussi aimante que j'aurais voulu, c'est parce que j'ai moi-même été violentée. Hein, vous pouvez leur dire ça, parce que c'est aussi, ça les aidera aussi à mieux comprendre les rapports qu'ils ont eus avec vous. Ils ont quel âge aujourd'hui?
Oui.
Ils ont quel âge aujourd'hui, Céline?
Il y en a un qui a 25 ans, l'autre a 23 ans, l'autre a 21 ans, 19 ans, j'en ai beaucoup.
Oui, je vois ça.
Et 12 ans.
Bon, bah,
d'accord,
écoutez.
Donc c'est des grands enfants. La question, c'est est-ce qu'ils vous reprochent de ne pas avoir été assez aimante par moment?
Alors, L'aîné, oui. Après, mon dernier, non. Enfin, il ne me le reproche pas, mais il me le montre, sérieusement.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des mots là-dessus et de leur dire qu'à un cas, j'ai fait comme j'ai pu, mais je vous aime. Si déjà ils entendent je vous aime, c'est déjà essentiel. Après, tous les enfants ont des grillages vis-à-vis des parents, même quand on n'est pas avec des parents qui dysfonctionnent, qui sont maltraitants. Mais c'est important de sortir du non-dit. C'est important de dire. Hein, l'actualité fait qu'en ce moment, on parle beaucoup de la libération de la parole. C'est aussi une parole qui doit se libérer dans le champ des possibles avec ses enfants et dire à ses enfants « je vous aime et j'aurais voulu faire mieux ».
Et puis Céline, pourquoi pas ceux qui sont adultes, hein, pas ceux qui ont 15 et 12 ans, mais ceux qui sont adultes, vous pouvez leur faire écouter ce qu'on vient d'échanger ensemble, ça peut les aider.
Ouais.
Oui, éventuellement, oui.
Vous voyez, comme ça, ils entendront ce que vous avez dû dire. Ils entendront surtout aussi votre souffrance. Et ça les rendra un peu plus indulgents sur peut-être les carences qu'ils considèrent avoir eues par rapport au manque d'amour de leur maman. Mais je suis sûre que vous les avez aimés, ça, on n'a aucun doute. Et ils vous aiment, ça, c'est sûr aussi. Merci,
j'espère.
Céline.
Merci,
Céline.
Merci. Merci beaucoup, Céline.
Merci. Demain, on sera avec Fabrice Bach. On évoquera évidemment un tout autre sujet. On parlera de la séduction. Comment ne pas oublier la séduction dans le couple et comment peut-être la réactiver si justement elle a diminué. Mais on va rester évidemment sur le sujet des violences intrafamiliales avec Elisabeth qui, je crois, va témoigner au sujet de son père. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Brigitte et Bruno. Là.
Bonjour Elisabeth.
Oui.
Merci. Merci d'être avec nous.
Merci de me donner la parole surtout.
C'est votre père qui était très violent.
Alors oui, mon père était violent physiquement. Alors il est parti, j'avais 10 ans, donc je ne l'ai pas trop connu si on veut bien, mais j'ai beaucoup de souvenirs. En fait, tous les souvenirs que j'ai de lui, c'est toujours des souvenirs de violence. Alors, je vais redire peut-être des choses qui ont été dites précédemment, parce que malgré tout, les traces sont toujours les mêmes. Moi, j'ai fait pipi au lit très tard, jusqu'à 5 ans. Et pour me punir, il me mettait dans la soute à charbon. Donc, aujourd'hui, je suis phobique de la claustro. Je peux pas être enfermée quelque part. Je peux pas avoir quelque chose sur la tête tellement j'ai... Voilà. Je peux rien y faire, c'est comme ça. Il était extrêmement violent par rapport à la nourriture. Il avait des grands principes tant que sur la façon de se tenir à table, alors qu'on ne venait pas d'un monde, on ne vient pas d'un monde très très bourgeois. Hein. On était des gens plus qu'ordinaires, et pourtant il avait des grands principes sur la tenue, sur ce qu'on devait manger. Il m'attachait les mains parce que je ne voulais pas de poisson. C'était des choses que je ne supportais pas, et aujourd'hui je ne peux toujours pas manger les produits de la mer. Hein. Mais voilà, il m'attachait les mains et il m'enfournait les choses de force. Donc, c'était pas simple avec lui. Puis la violence physique ordinaire, si je puis dire, des coups. Voilà, diverses
variétés.
Oui, pardon.
Quand vous dites qu'il est parti, j'avais 10 ans, on parle de quoi? Il a quitté le domicile ou il est décédé?
Non, oui, pardon. Oui, tout à fait. Il est parti du domicile très courageusement, d'ailleurs. Hein.
D'accord.
Oui, c'est vrai que j'ai utilisé peut-être pas une bonne expression.
Non, c'est moi qui cherchais à comprendre.
Mais en même temps, je dis, il est tellement parti qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, de quoi que ce soit. Et quand il est décédé, bien sûr, là, on nous a retrouvés. Et c'était une autre violence, si je puis dire, parce que personne ne savait qu'il avait eu des enfants.
Ah oui, il a eu d'autres enfants.
Non.
Il est parti sans dire qu'il était père, quoi. D'accord.
Oui, okay. Oui. Puis les personnes qui le connaissaient quand il est au moment de son décès, qui le fréquentaient, étaient partis sur Paris. Eh bien, alors à la grande surprise de son environnement, qui n'était pas énorme, mais enfin bon, il avait un petit environnement. Non, il n'avait pas eu d'autres enfants, mais personne ne savait qu'il avait eu une vie avec des enfants. Voilà. Donc voilà, mais...
Et votre mère, face à cette violence, qu'est-ce qu'elle faisait?
C'est ce que j'allais vous dire, Brigitte. En fait, malheureusement, j'ai très, très peu de souvenirs de ma mère de cette période-là. En tout cas, d'une mère qui était capable de me consoler, de me dire des paroles et de me protéger. Au contraire, elle était aussi un peu comme ce qui a été dit précédemment. C'est vrai, je redis un peu les choses, mais elle était plutôt... tu vas voir, quand ton père va revenir, tu vois, t'as pas eu ça à l'école, t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça. Enfin, c'était toujours dans le reproche. Et une fois que lui est parti, donc, il a quitté le foyer, elle a repris la main de la violence physique. Et oui, voilà, je pense qu'en fait, ça lui a bien convenu comme ça, et diverses autres violences d'ailleurs de sa part, jusqu'à quand j'avais, 38 ans à peu près, entre 38 et 40 ans, on s'est retrouvés en rupture totale parce qu'un jour, au téléphone, elle avait été fâchée d'un truc, je ne sais même plus quoi, tellement c'était anodin. Et elle était très explosive, ma mère. J'étais la reine des personnes capables de mettre de l'huile dans les rouages, tellement j'ai été habituée à une mère explosive. Il fallait toujours que je gère bien ses colères possibles, ses façons de réagir. J'étais toujours dans l'anticipation, ce que j'ai beaucoup produit.
Au-delà de la difficulté avec papa, il y avait une forme de duplicité avec maman aussi. Oui, et c'était moins explicite que ce que pouvait le faire papa, maman était quand même dans la menace, dans la contrainte. D'accord.
Oui. Puis elle ne s'est pas privée une fois qu'il est parti. Hein. Donc, non, c'est là-dessus. Et du coup, j'étais assez habituée à mettre de l'huile dans les rouages pour tout et partout. Et du coup, j'ai reproduit également avec mon mari, qui n'est plus aujourd'hui mon mari puisque nous sommes divorcés. Mais pour revenir à ce que j'allais vous dire, ce qui a mis un terme avec ma mère, c'est qu'un jour, au téléphone, elle explosait au téléphone et elle me dit « De toute façon, t'es morte pour moi. » Et je l'ai vécu tellement violemment que j'ai été 6 mois sans... J'ai une période de 6 mois de ma vie où je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai vécu. Pourtant, j'avais mes enfants. Mais j'ai été plongée dans un... Tout en essayant de continuer...
Les...
Oui. Oui.
Une sorte de mort très dur. Psychique. Oui.
Oui, et ça a été très dur.
Oui, parce qu'en fait, en vous faisant ça, elle vous tue.
Oui.
Elle vous dit tu n'existais plus à mes yeux. Et un enfant, surtout dans la petite enfance, l'enfant, vous savez...
Elisabeth était adulte, là.
Hein. Oui, c'est ça.
Mais il y a toujours le petit enfant
bien sûr.
Et c'est pour ça que je parle de mort d'enfant. L'enfant, il existe parce qu'il veut plaire aux parents. Un enfant qui travaille à l'école, par exemple, il ne travaille pas pour devenir cultivé, intelligent, avoir un bon métier. Il travaille parce qu'il attend que ses parents lui disent « Je suis fier de toi, en fait, c'est bien. » C'est ça, la motivation première. Après, on trouve du plaisir à s'instruire et à apprendre. Mais au tout début, là, je parle vraiment de la petite enfance, c'est 5-7 ans maximum, l'enfant travaille pour être reconnu par les parents. Et quand on est avec des parents qui, en permanence, nous rabaissent...
Voilà. Mais ce que, vous voyez, Elisabeth, ce qui est important à comprendre, encore une fois, pour vous et surtout pour ceux qui écoutent, c'est que jusqu'à 38 ans, vous attendez quand même, à un moment donné, une preuve d'amour de votre mère. Et quand elle vous dit que vous n'existez plus, que vous êtes morte, quelque part, elle vous dit définitivement que de toute façon, vous n'aurez jamais cette reconnaissance. Et peut-être que, même si ça a été très difficile à entendre, mais peut-être que ça a quand même permis un déclic chez vous pour arriver à comprendre ce qu'elle vous a fait subir.
Alors oui, parce qu'en fait c'est ce qui m'a fait mettre le pied chez un psychologue. Et la première phrase que je lui ai dite, parce que j'étais vraiment dévastée, je m'en souviens comme si c'était hier, hein, et ça va bientôt faire quand même 15-20 ans, on est dans cette tranche-là. Je lui ai dit, je viens pour faire le deuil de ma mère qui est encore vivante.
Bravo, jolie phrase.
Ouais, enfin c'était dur. Hein. Ça a été des années qui ont suivi, qui ont été très dures.
Vous aimez lire ?
Pardon ?
Vous aimez lire ?
Je lis des livres, c'est ce que vous me demandez ?
Oui, est-ce que vous aimez lire ? Oui, pardon.
Ah oui, excusez-moi, j'avais un petit peu de mal. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup lire.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille un livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Sauve-toi, la vie t'appelle ».
Ah, d'accord, oui, Boris Cyrulnik, j'en ai lu d'autres de lui, mais pas celui-là, oui.
Voilà, et celui-là, c'est un des essentiels, c'est un des premiers livres qui a commencé à parler de ce qu'on appelle la résilience. Et la résilience, c'est arriver à faire d'une faille une force. C'est une bascule, si vous voulez. On a toujours la cicatrice de quelque chose de douloureux, mais on arrive non seulement à vivre avec, mais aussi à se servir de ça pour continuer à vivre.
Oui, c'est pas toujours évident malgré tout. Je vais suivre le conseil de lire ce livre vraiment.
Mais Elisabeth, je vais vous dire la même chose qu'à Thierry. Vous avez fait le premier pas. Après, c'est long, c'est très long, mais tout doucement, vous avancez et vous êtes sur le chemin. Après, évidemment qu'avec le passif que vous avez, c'est pas facile. Vous êtes sur un chemin avec un gros sac à dos, mais tout doucement, ce sac à dos, il s'allège.
Oui, mais c'est vrai que dans la vie relationnelle, du coup, on subit un peu toute notre vie, cette façon d'être. Hein. Que moi, avec le mari que j'ai eu après, derrière, ça a été du même ordre.
Alors, moi, je vais profiter de ce témoignage pour donner une information qui me paraît essentielle. c'est que je vous disais, en préambule, je disais la famille, c'est un huis clos. C'est un huis clos et c'est notre première expérience de sociabilisation. La première société qu'on expérimente, c'est notre famille. C'est important de travailler sur soi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, on peut casser le coup aux croyances. Et souvent dans les familles, on se rend compte que la famille, c'est là où je vais apprendre à me soumettre, où je vais apprendre à faire du mal. La famille, parce qu'il y a des répétitions, si vous voulez, de 0 à 15 ans, j'apprends, et après je restitue ce que j'ai appris. Pas parce que c'est bien ou mal d'ailleurs, c'est parce que c'est comme ça que j'apprends les choses. Et de plus en plus, on est en train de voir ces notions de répétition qui sont prises en compte pour essayer de casser, justement, souvent on entend dire, par exemple, un père incestueux, un père qui viole, c'est un père qui a été violé. Oui, mais tous les parents violés ne deviennent pas des parents violeurs, pour le coup. Mais en tout cas, on apprend des choses comme ça. Et donc après, c'est difficile de devenir un parent différent, parce que moi, mon modèle, c'est celui que m'a proposé ma mère et mon père. Et mon père en se barrant à 10 ans, et ma mère en reprenant la main et en me maltraitant tant et plus. Et donc, je continue à enferrer cette croyance-là que j'ai peu de valeur.
Bon, en tout cas, merci Elisabeth, votre témoignage me touche beaucoup.
Oui.
J'entends votre fragilité encore qui est là à fleur de peau, mais soyez confiante Elisabeth, on vous embrasse. Allez, on fait une petite pause, on va terminer avec Isabelle qui justement est directrice de crèche et qui va témoigner. C'est peut-être bien aussi de témoigner ce genre de témoignage pour conclure cette émission difficile.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Bruno Poncenard, nous avons évoqué les violences intrafamiliales. On va conclure avec Isabelle qui nous rejoint, qui est directrice de crèche. Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour Isabelle.
Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais je trouve que votre témoignage... Non, je vous en prie, mais il est important pour conclure cette émission justement, puisque vous rencontrez des parents. Allez-y.
Oui, je rencontre des parents tout au long de l'année, depuis plus de 27 ans. Et effectivement, on ne n'est pas parent, on le devient, disait Françoise Dolto. Et on le devient à partir d'un processus mental complexe qui s'appelle la parentalité. Et cette parentalité se met en place tout au long de la vie à partir de la transmission, vous l'avez dit, intergénérationnelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nous sont transmises de génération en génération. Et parfois, effectivement, un parent maltraité devient maltraitant, mais pas forcément, en effet. Et cette transmission intergénérationnelle, elle est réelle. Hein. Mais quand elle dysfonctionne, on parle de transmission transgénérationnelle parce que les parents qui souffrent transmettent à leurs enfants de la souffrance et beaucoup de choses toxiques. Mais effectivement, dans nos structures, moi je m'attache à former le personnel, à repérer justement ces signes de dysfonctionnement et ces signes dont les parents n'ont pas forcément conscience. Et c'est à travers la façon dont les parents sont attachés à leur enfant, cette sécurité affective, qu'on arrive à voir si l'attachement est sécure ou insécure. Quand on décèle un attachement insécure, effectivement, là, on va travailler avec l'enfant, on va travailler avec les parents, mais dans la bienveillance la plus totale et dans le non-jugement et dans l'accompagnement. Depuis 3 ans, je suis subventionnée par la CAF de la Gironde en mettant en place des ateliers de soutien à la parentalité avec des professionnels. C'est au rythme de une fois par mois. Nous accueillons des familles qui le souhaitent. Et les parents, hommes, femmes qui le souhaitent. Et il y a des thérapeutes, il y a des sophrologues, psychologues, psychomotriciennes qui sont là pour être à l'écoute. Et le groupe est à l'écoute, chaque membre du groupe est à l'écoute, l'un de l'autre. Et les cercles de parole fonctionnent très très bien. Et la parole se délie. Et c'est là qu'on mesure parfois toute la difficulté à être parent quand on nous a transmis des choses difficiles et dures.
Merci et Isabelle, je trouve formidable de terminer avec votre témoignage parce que ça montre quoi ? Ça montre que si la société prenait le temps d'aider toute personne qui va devenir parent à comprendre quelles sont ses séquelles, quelles sont ses blessures et qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille pour être un meilleur parent, on améliorerait mais de manière considérable non, Bruno Poncenard,
formidable. Et alors le témoignage d'Isabelle est important et même essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, que ce soit dans toutes les personnes qui accompagnent les enfants, dans tout ce qui est au niveau socio-économique, y compris dans la justice. On a de plus en plus comme ça de rencontres transversales où on va s'enrichir du savoir des uns et des autres. On est de moins en moins corporatistes. Et je pense que c'est ça qui va aider les gens à avancer et à cheminer et à pouvoir aider. Il y a un travail associatif qui est énorme en France, énorme. Je vous ai cité deux associations, j'aurais pu vous donner 100 noms d'associations en fait, avec France Victime, avec le réseau, avec plein de choses qui se font. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette conscience-là aussi chez les professionnels de se dire, ne restons pas sur nos acquis.
Avançons tous ensemble. Merci beaucoup. Exactement. Isabelle, je suis ravie de terminer par ce témoignage parce que ça montre, ça donne une note d'espoir quand même, parce qu'on a quand même entendu des témoignages qui m'ont beaucoup fait mal et j'embrasse et je remercie ceux qui ont témoigné et je leur souhaite à tous bon courage.
Pour ce courage.
Et merci à vous Bruno Poncenard, à très vite et merci d'avoir choisi ce sujet. Je crois que ça donne à tout le monde l'envie d'améliorer la société. Merci.
Et on peut parler de tout. Merci à vous Brigitte.
Et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir et on se retrouve demain.